Savoie, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 27 août 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. La junte militaire malienne annonce avoir libéré l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Rwanda restaure certaines restrictions face à la remontée des cas du nouveau coronavirus. Les Républicains clôturent leur convention nationale ce soir avec le discours du président Donald Trump qui va accepter sa nomination. Toujours ici aux États-Unis, l'ouragan Laura balaye la Louisiane avec déjà d'importants dégâts. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et le sport. Mais tout d'abord, le journal. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est libre. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, en a fait l'annonce et sa famille a confirmé l'information. Au même moment, à Kati, le barreau et d'autres organisations de droits de l'homme ont rendu visite aux personnalités arrêtées. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Le Comité national pour le salut du peuple au pouvoir depuis une semaine au Mali annonce avoir libéré ce jeudi l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta qu'il avait renversé après 7 ans de pouvoir à la tête du Mali. Cette libération annoncée de M. Ibrahim Boubacar Keïta peut s'expliquer comme une manifestation de gestes de bonne volonté à l'adresse de la CEDEAO, dont les dirigeants se réunissent en sommet ce vendredi pour décider après les premières sanctions ou d'augmenter la pression contre les militaires au pouvoir. Un membre de la famille de Ibrahim Boubacar Keïta indique sous l'anonymat qu'il est rentré dans la nuit dans sa résidence au quartier de Sébenikoro. À Kati, les barreaux du Mali et d'autres organisations de défense des droits humains ont pu rendre visite aux personnalités arrêtées suite au coup d'état du 18 août dernier. Par ailleurs, des membres du Comité national pour les Salis s'engagent à renforcer les dispositifs sécuritaires du pays. Ainsi, une délégation conduite par le 2e et 3e vice-président se trouve actuellement à Mopti, première étape d'une visite qui le conduira dans les régions de Tombouctou et Gao. Le but de cette mission est d'échanger avec les hommes sur leurs conditions de vie. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Par ailleurs, le fils de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Karim Keïta, a trouvé refuge dans un pays voisin, selon l'AFP, qui cite une source diplomatique et son entourage. Considéré par de nombreux manifestants comme personnifiant la corruption du régime, Karim Keïta avait échappé à l'arrestation et l'on était sans nouvelles officielles de lui depuis lors. Et puis la junte au Mali a aussi entrepris une tournée dans la sous-région pour demander au chef d'État de plaider en sa faveur pour assouplir les sanctions de la CEDEAO. Et selon les informations de VOA Bambara, le colonel Malik Diaw, un des leaders de la junte, était ce matin à Ouagadougou. Les chefs des services de renseignement militaire du Rwanda et du Burundi se sont engagés à œuvrer au rétablissement de la sécurité à la frontière entre les deux pays, dont les relations sont tendues depuis plusieurs années, a annoncé le facilitateur du dialogue. Cet engagement a été pris lors de la première rencontre publique en 5 ans entre hauts responsables des deux pays qui a eu lieu mercredi au poste frontière de Nemba dans le district rwandais de Bugesera. La rencontre s'est tenue sous l'égide de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Au Rwanda, les autorités ont rallongé la durée du couvre-feu nocturne et interdit les déplacements vers et hors de la région occidentale de Rusizi. Des mesures visant à faire face à la hausse récente du nombre de cas de COVID-19. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
Après une réunion du cabinet présidée par le président Paul Kagame, le gouvernement a annoncé mercredi soir que la durée du couvre-feu serait rallongée. En vigueur de 21h à 5h, il passe désormais de 19h à 5h. Tous les déplacements vers et hors de Rusizi, où de nombreux cas ont été recensés, sont proscrits. À l'échelle nationale, les écoles qui devraient rouvrir en septembre resteront fermées. Les autres mesures actuellement en place, comme la fermeture des bars, le port obligatoire du masque en public, la limitation du nombre d'employés travaillant en même temps dans les bureaux et l'interdiction des rassemblements publics sont maintenues. Le pays a rouvert ses vols internationaux aux touristes qui doivent présenter un certificat prouvant qu'ils ne sont pas contaminés. Mais les frontières terrestres sont toujours fermées aux étrangers. Le Rwanda a décidé de renforcer les restrictions après avoir enregistré mardi 217 nouveaux cas, son record quotidien de contamination. En outre, plus de 1000 cas sur un total de 3625 depuis le début de l'épidémie ont été relevés ces 10 derniers jours. Les autorités imputent cette hausse au non-respect croissant des règles de distanciation sociale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, quatrième et dernière nuit de la Convention nationale républicaine, le président Trump acceptera ce jeudi la nomination du Parti républicain pour briguer un second mandat. Le point avec Claire Morin-Jubourg.
Le discours du président américain Donald Trump est prévu en fin de soirée depuis la Maison-Blanche en raison de la pandémie du coronavirus. À moins de 70 jours de l'élection, le président sortant acceptera officiellement sa nomination et son discours clôturera la convention républicaine. Hier soir, lors de la troisième soirée, le vice-président Mike Pence a présenté Donald Trump comme le seul capable de résister aux assauts de la gauche radicale.
You won't be safe in Joe Biden's America.
Vous ne serez pas en sécurité dans l'Amérique de Joe Biden, a-t-il dit. Il a accepté sa nomination pour un deuxième mandat. Donald Trump compte sur son vice-président pour assurer, comme en 2016, la mobilisation de la droite religieuse. Un Américain sur quatre est évangélique, selon l'Institut Pew. C'est la forme dominante du protestantisme américain et la première famille religieuse du pays, devant les catholiques et les protestants traditionnels. Le soutien des évangéliques blancs à l'écart du président Trump reste solide. Mike Pence est aussi le chef de la task force sur le coronavirus. Le bilan de la pandémie est très lourd. Les États-Unis s'apprêtent à franchir le cap des 180 000 morts du Covid-19.
Toujours aux États-Unis, le calme n'est toujours pas revenu à Kenosha, dans le Wisconsin. Après trois nuits d'émeutes, quelques centaines de militants antiracistes ont rendu hommage dans le calme mercredi soir aux deux manifestants tués la veille à Kenosha. Les précisions de John Lyndon.
Pour cette nouvelle nuit de manifestation malgré le couvre-feu, les organisateurs avaient multiplié dans la journée les appels au calme. On va continuer à manifester dans le calme, ils veulent nous faire taire, mais ils n'y arriveront pas, explique un musicien. Les violences ont débuté dimanche dans cette ville de 100 000 habitants, dans le nord-est des États-Unis, après qu'un Afro-Américain du nom de Jacob Blake a été grièvement blessé lors de son interpellation par la police. Dans ce contexte de tensions extrêmes, un adolescent de 17 ans est soupçonné d'avoir tué deux manifestants par balle mardi soir dans des circonstances floues. L'un d'eux, Anthony Hubert, est tombé au milieu de la rue en voulant arrêter le tireur qui s'enfuyait. Un peu plus loin, devant une station-service, une fleur et une bouteille d'alcool marquent l'endroit où l'autre manifestant est mort, touché par une balle dans la tête. « Il est mort pour nous, il est mort pour rien », lance un des meneurs de la marche en dénonçant les brutalités policières contre la minorité noire qui se succèdent depuis le début de l'année et qui ont entraîné un mouvement de colère historique ici même aux États-Unis.
En partie magazine, nous reviendrons sur le boycott lancé par certaines équipes de la NBA suite à ces incidents à Kenosha. Une première victime a été annoncée en Louisiane, une fille de 14 ans, tuée par la chute d'un arbre sur sa maison après le passage destructeur de Laura, l'un des ouragans les plus violents à avoir frappé cet État. Le point avec Nathalie Barche.
L'ouragan Laura a touché terre en catégorie 4 au niveau de Cameron, près de la frontière avec le Texas dans le golfe du Mexique, avec des vents de 240 km/h selon le Centre national des ouragans. À la levée du jour, c'était les scènes de désolation habituelles. Arbres et poteaux électriques renversés, bâtiments détruits, toits arrachés et rues inondées ou couvertes de débris. Les vents violents ont arraché les vitres de plusieurs bâtiments à Lake Charles. Les dégâts sont importants, a dit le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, soulignant que le vent a été plus destructeur que la montée des eaux annoncée. Plus de 650 000 personnes étaient privées d'électricité ce jeudi matin en Louisiane et au Texas. Rétrogradé en catégorie 1, l'ouragan poursuit sa route vers le nord en direction de l'Arkansas.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a achevé ce jeudi une tournée au Moyen-Orient. Avant de s'envoler pour Washington, M. Pompeo s'est entretenu avec le sultan d'Oman, Haitham Ben Tarek, sur les questions régionales. Aucune mention n'a été faite des relations avec Israël. L'un des objectifs de sa tournée était de convaincre d'autres pays arabes de normaliser leurs relations avec Israël, à l'instar des Émirats Arabes Unis. L'accord historique entre les Émirats et Israël a été parrainé par les États-Unis, mais le chef de la diplomatie américaine n'a pas obtenu l'engagement du Soudan et de Bahreïn pour une normalisation avec Tel Aviv. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par John Lindon.
Le président sénégalais Macky Sall a demandé jeudi la prolongation en 2021 du moratoire de la dette africaine par le G20, arguant de la nécessité de relancer l'économie du continent très affaiblie par la crise sanitaire. Mi-avril, les pays du G20 avaient pris la décision inédite de suspendre jusqu'à la fin de l'année les remboursements de la dette des pays les plus pauvres, confrontés à une fuite de capitaux et aux chutes de recettes fiscales en raison de la pandémie. À titre d'exemple, M. Sall a rappelé que le taux de croissance de son pays, le Sénégal, projeté initialement à 6,8%, atteindrait au mieux 1,1% en 2020. La Chine conserve sa position de premier partenaire commercial du Cameroun avec une part de marché de 18,4% pour l'année 2019. C'est ce que montrent les statistiques de l'Institut national des statistiques. Selon le site CameroonInfo.net, le gouvernement camerounais a exporté ses produits dans 120 pays à travers le monde en 2019. Quant à la Chine, le Cameroun y a principalement exporté du pétrole brut, du gaz naturel liquéfié, du bois brut, du bois scié et du coton brut. Les exportations de café de l'Ouganda ont augmenté de 17,2% en juillet par rapport au même mois de l'année dernière, stimulées par la production de nouveaux caféiers mûrs et l'assouplissement des restrictions au coronavirus. Le plus grand exportateur de café d'Afrique a expédié plus de 540 000 sacs de 60 kg de café en juillet contre un peu plus de 460 000 sacs exportés le même mois l'année dernière.
À présent, la page des sports avec Yacouba Wetraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. La candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football a été rejetée par la commission électorale de la FIFA. Cette dernière a jugé irrecevable certains parrainages réunis par l'ancien capitaine des éléphants, notamment ceux de l'Africa Sport et de l'Association des arbitres de Côte d'Ivoire. La commission électorale qui avait été suspendue par la FIFA puis rétablie par la FIFA a aussi rejeté la candidature de Paul Kofi Kouadio sur la candidature de l'actuel vice-président sortant de la Fédération ivoirienne de football, Souri Diabaté, et celle d'Idriss Diallo ont été validées par la commission électorale de la FIFA. Les recalés ont 5 jours pour faire appel de cette décision de la commission électorale. En Angleterre, le milieu de terrain international Gareth Barry, détenteur du record de matchs joués en Premier League avec 653 rencontres, va prendre sa retraite à 39 ans, ont annoncé Manchester City et Everton, deux clubs où il a évolué. Félicitations pour cette carrière magnifique et merci pour le temps passé avec les Toffees, a tweeté Everton, alors que City lui a adressé ses meilleurs vœux pour sa retraite. Barry, 53 sélections et 3 buts, a débuté au plus haut niveau à Aston Villa en 1998, avant de signer en 2009 à Manchester City, club avec lequel il a remporté la Coupe d'Angleterre en 2011 et a été sacré champion d'Angleterre l'année suivante. Il a ensuite porté le maillot d'Everton pendant 3 saisons, 2014 à 2017, avant de rejoindre West Bromwich Albion en championship, entendez deuxième division. Ici, en NBA, les Los Angeles Lakers de LeBron James et les Los Angeles Clippers ont voté pour l'abandon de la saison NBA
pour protester contre les tirs de la police sur l'afro-américain Jacob Blake. Les Lakers et les Clippers, les deux grands rivaux et favoris pour le titre en NBA, ont exprimé ce souhait lors d'une réunion d'urgence impliquant toutes les équipes encore en lice dans les playoffs, selon The Athletic et Yahoo Sport. Selon ses organes de presse, les 11 autres équipes préfèrent poursuivre la saison. Cette réunion d'urgence s'est tenue consécutivement au boycott par les Milwaukee Bucks de leur match contre les Orlando Magic plus tôt. Une initiative soutenue par les autres joueurs des équipes qui devaient également jouer hier et qui a contraint la NBA à reporter 3 matchs au programme. Bagassi Koura reviendra sur ce boycott dans la partie magazine de cette édition.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Élection américaine 2020, le vice-président Mike Pence a accepté sa nomination hier soir durant la troisième nuit de la convention nationale du Parti républicain. Alors que plusieurs villes américaines connaissent des troubles, Mike Pence a prononcé un discours plein d'optimisme dans lequel il a mis en garde les Américains contre les démocrates. Reportage de Mike Sullivan et c'est un récit de Lionel Gaïma.
C'est de Fort McHenry à Baltimore, symbole et théâtre de la célèbre bataille de 1814 contre la marine de guerre britannique, que Pence s'est adressé aux délégués de la convention républicaine.
So with gratitude for the confidence
avec gratitude pour la confiance que le président Trump a placée en moi, le soutien de notre parti républicain et la grâce de Dieu. J'accepte humblement votre nomination pour être candidat et servir comme vice-président des États-Unis.
Divers orateurs ont exprimé leur patriotisme ainsi que leur soutien aux forces de l'ordre qui se retrouvent parfois en ligne de front face aux violentes manifestations. Des situations qui se multiplient suite à la mort de plusieurs Noirs américains dans des confrontations avec la police. La gouverneure Christine Noem du Dakota du Sud.
La violence est endémique, le pillage, le chaos, la destruction prévalent.
Un thème repris par beaucoup d'intervenants durant toute la soirée. La sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee.
Je parle des héros de nos forces de l'ordre et de nos forces armées. Les gauchistes tentent de les faire passer pour des méchants.
Cible particulière des critiques lors de la convention du Parti républicain hier soir, les candidats démocrates Joe Biden et Kamala Harris. Michael McHale de l'Association nationale des organisations de police.
Le président Trump soutient la mise en place d'une norme nationale de formation des agents de police à la désescalade et à la communication pour leur donner les outils de résolution non violente des conflits.
Le candidat démocrate Joe Biden assure qu'il n'appuie pas les appels à la réduction ou à la suppression des budgets de la police, mais veut que plus de fonds soient consacrés à la police communautaire et aux travailleurs de santé mentale.
Je ne veux pas qu'on coupe les fonds des services de police. Je pense qu'ils ont besoin de plus d'aide, de plus d'assistance. Et nous devons dire clairement qu'il s'agit de protéger les quartiers, de protéger les gens.
D'anciens combattants soutenant Trump ont raconté leurs expériences. Le dissident chinois Cheng Wancheng a, pour sa part, accusé Biden d'apaiser le Parti communiste chinois. Laura Trump, belle-fille du président Trump, faisait partie des orateurs d'hier soir, tout comme Karen Pence, épouse du vice-président américain. Selon ce dernier, les républicains ont un message d'espoir.
Joe Biden said that
Joe Biden a dit que nous vivions une saison de ténèbres. Mais le président Trump a dit, là où Joe Biden voit les ténèbres en Amérique, nous voyons la grandeur de l'Amérique.
Le discours d'acceptation du président Trump ce soir constituera le point d'orgue de la quatrième et dernière nuit des conventions du Parti républicain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le débat acrimonieux ici aux États-Unis sur le second amendement et le contrôle des armes occupe une place centrale dans les conventions démocrates et républicaines. Lundi, les républicains ont fait parler en soutien au président Trump un couple de l'État du Missouri qui avait pointé des armes sur les manifestants de Black Lives Matter près de leur maison. Catherine Gibson examine les différences entre Donald Trump et Joe Biden sur les questions du port d'armes. C'est un récit de John Lyndon.
Le droit de porter les armes est inscrit dans la Constitution américaine, mais selon le président Trump, ce droit sera supprimé par les démocrates s'ils prennent contrôle de la Maison-Blanche.
Ils arracheront vos armes aussi sûrement que vous êtes assis.
Mais les fréquentes fusillades ces dernières années ont attisé les manifestations en faveur de lois sur le contrôle des armes à feu. La plupart des Américains soutiennent quelques restrictions au port d'armes selon les sondages. Le consensus autour du sujet est tel que le Parti démocrate l'a souligné lors de sa convention la semaine dernière. Alex Clayton enseigne à l'American University de Washington.
Se concentrer sur la réduction de la violence armée est un sujet qui peut unir pratiquement tout le monde sous la tente du Parti démocrate. Cela a du sens de se concentrer dessus plutôt que sur quelque chose d'un peu plus litigieux.
L'ancien vice-président Joe Biden dit que s'il est élu, qu'il œuvrera pour l'interdiction des armes d'assaut, de même que l'adoption des lois permettant de confisquer les armes de personnes jugées comme présentant un risque pour elles-mêmes et pour les autres. Selon un récent sondage Pew Research, 55% des électeurs américains inscrits affirment que la politique concernant le port d'armes constituera un important aspect de leur vote aux élections de novembre.
Le monde sportif américain, basketteur de la NBA en tête, a démarré un mouvement de boycott des compétitions en réaction à l'affaire Jacob Blake, ce jeune afro-américain grièvement blessé par un policier, un incident qui relance le mouvement antiraciste aux États-Unis. Ce mouvement de boycott sans précédent est lancé par l'équipe de basketball des Milwaukee Bucks, forçant la NBA à reporter plusieurs autres rencontres. Pour une réaction, Bagassi Koura a joint dans le Maryland, Eugène Pewa Pelema, président d'Africa Education Sports.
Les joueurs, la plupart NBA dans le sport en général, sont des joueurs noirs. Et ce qui se passe aux États-Unis depuis assez longtemps maintenant, il y a des violences policières envers les noirs en particulier, comment les noirs sont traités. Et le dernier, c'est un événement qui s'est passé dans le Wisconsin où. Ce jeune noir américain a été tiré dans le dos cette fois par un policier et cela ne justifiait en rien qu'on lui tire dessus de cette manière. Donc cette injustice sociale qui se passe, comment les peuples ont poussé les noirs, les joueurs, que ce soit dans le basketball, que ce soit dans le tennis, puisqu'on a vu la jeune Osaka qui refuse de jouer aujourd'hui, elle accepte de perdre le match pour être solidaire à cette cause. Il en est de même pour les joueurs de WNBA.
Oui, on parle même de l'annulation totale de la saison, notamment en NBA.
Oui, c'est une possibilité. C'est ce que moi j'ai entendu aussi. Et je pense qu'il y aura des discussions au niveau de l'NBA, les joueurs vont en discuter.
Alors, on sait qu'il y a quelques années, ça avait commencé dans le football américain avec Kevin Kaepernick.
Oui, Kevin Kaepernick, lors des matchs de football américain, au moment où on jouait l'hymne nationale, il avait sa manière de faire les choses. Il s'agenouillait, il mettait un genou par terre, il s'agenouillait pendant l'hymne nationale. Et les gens avaient trouvé ça comme étant une insulte, un manque de patriotisme, ce qui ne rend pas la cause. Je pourrais dire que ce n'est vraiment pas ce qu'il cherchait à faire. Son but était de faire comprendre qu'il n'était pas normal que des Noirs américains qui ont contribué au développement de ce pays à tous les niveaux, depuis l'esclavage ou dans toutes sortes de découvertes, soient et continuent d'être traités comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone. Et je pense que Kaepernick avait commencé ce mouvement et les faits aujourd'hui lui donnent raison.
Est-ce que vous pensez que cela pourrait faire effet boule de neige et toucher aussi le football en Europe notamment, où il y a beaucoup plus de noirs aussi?
Mais on a vu avec l'événement de George Floyd, comment dans le monde entier, il y a eu cet effet justement domino où tous les pays, il y a eu ce Black Lives Matter movement qui a fait enflammer dans l'ensemble du monde. Et donc, on avait cru que ça aurait permis aux gens de prendre conscience, spécialement aux États-Unis, mais bizarrement, après George Floyd, il y a eu une série d'incidents qui font croire le contraire. Et il y a celui qui vient de se passer en Wisconsin, et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et par conséquent, tous les joueurs, je pense que les athlètes noirs, tous ceux qui ont un impact sur la société, je suppose que les uns et les autres, il y aura une sorte de chaîne où les gens vont pouvoir se parler. Peut-être qu'il y aura justement cet effet dans le monde.
C'était Eugène Pewa-Pelema, président d'Africa Education Sports.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Togo, un orchestre particulier composé de personnes en situation de handicap visuel, les Happy Brothers, fait la joie du public. Ce groupe musical attire des jeunes non-voyants pour les accompagner dans la vie sociale à travers diverses initiatives. Reportage à Lomé de notre correspondante Kailoson.
Les membres de l'orchestre Happy Brothers sont au complet pour une séance de répétition au siège de l'association qu'il a créée il y a 23 ans. En effet, en 1997, l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, AHDCD, a voulu passer par la musique pour mettre fin à la discrimination dont est victime cette frange de la population. Emmanuel Yao Aziakese, premier vice-président de la HVCD.
Nous avons réalisé qu'il y a des potentialités parmi des personnes handicapées visuelles et entre autres aussi permettre à ces personnes de jouir de leur citoyenneté pleine et entière sur la base de l'égalité avec les autres. Et quand je parle de citoyenneté pleine et entière, c'est-à-dire faire également valoir leur potentialité, entre autres la musique. Et nous avons constaté qu'en matière de musique, il y a des guitaristes, il y a des pianistes, il y a des batteurs, et puis il y a des chanteurs, compositeurs et beaucoup de vocalistes. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour mettre en place cet orchestre Happy Brothers.
Même si la discrimination à l'égard des personnes vivant avec une déficience visuelle n'a pas totalement disparu, la musique contribue à changer la perception du public sur ces personnes en situation de handicap. C'est ce qu'estime Marie Orunu, cœur de l'orchestre Happy Brothers.
On peut dire que les gens ne nous respectent pas, puisque on aura forcément besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Et c'est en ce moment qu'on entend des mots de discrimination, des fois qui fait mal. Mais avec la musique, les gens nous découvrent autrement, puisqu'ils ne savent pas que les personnes en situation de handicap visuel peuvent aussi chanter, danser comme eux et plus qu'eux-mêmes.
L'association AHVCD s'investit dans l'épanouissement des jeunes qui ont un handicap visuel grâce à un accompagnement pour une meilleure insertion dans un 21e siècle marqué par les nouvelles technologies. Des cours d'informatique adaptés sont dispensés au siège de l'association. Son premier vice-président revient sur l'informatique adaptée. Emmanuel Yao Aziakese.
Lorsqu'on parle de l'informatique adaptée, ça englobe en même temps certains logiciels que vous, personnes valides, que vous n'utilisez pas. Par exemple, lorsque moi je prends l'ordinateur, il y a un logiciel qu'on appelle lecteur d'écran, et grâce à ce lecteur d'écran, la personne handicapée visuelle aussi peut écrire par exemple dans Microsoft Word, Excel, ainsi aussi bien que utiliser l'Android. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner régulièrement à nos frères pour pouvoir les rendre beaucoup plus autonomes.
Ces cours d'informatique adaptés ont changé la vie de Martial Blais aussi. Il est étudiant.
L'informatique me permet d'exécuter des tâches que beaucoup d'autres font
et cela lève un peu cette situation d'handicap vis-à-vis de ma personne. Ces temps où, à l'université, les cours sont passés des cours présentiels en cours en ligne, il est important que l'handicapé déficient visuel arrive à s'adapter aux nouvelles technologies afin d'être au même niveau que les autres.
Grâce à des formations dans les centres spécialisés, nombreux sont les membres de cette association qui s'illustrent dans divers domaines. C'est le cas de Sena Koudjaou, qui maîtrise l'art d'habiller les chaises avec de l'osier ou du fil nylon. Malheureusement, les articles ont du mal à couler faute de marché. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon, Joël Morissin et Lionel Gaïma. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.